Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 23 novembre et Somnifère vous lit ce soir La Tisane, une histoire d'empoisonnement courte et cocasse de Léon Blois. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Prenez quelques secondes pour adopter une position confortable et après cela tentez de ne plus bouger. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez votre respiration un instant et expirez par la bouche. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques instants pour placer tous vos problèmes et vos préoccupations dans un des tiroirs de la commode de votre esprit et de fermer ce tiroir à clé. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, au travail, d'anxiété, d'une situation conflictuelle, peu importe. Rien de tout cela n'a d'importance au moment où je vous parle. Vous pouvez ouvrir ce tiroir demain, mais pas ce soir. Je vous laisse quelques instants pour rassembler ces pensées et les y enfermer. Maintenant que vous avez fait le vide, vous vous sentez plus léger et paradoxalement, vous sentez votre corps s'alourdir un peu plus sur le matelas. Concentrez votre attention pendant quelques instants sur les appuis de votre corps avec le matelas et sentez comme votre corps semble s'alourdir un peu plus à chaque expire. Concentrez votre attention sur vos paupières, relâchez-les et observez comme votre front se détend également, ainsi que votre mâchoire et les autres petits muscles de votre visage. Vous êtes détendu et à présent vous allez relâcher chaque partie de votre corps que je vais citer qui va automatiquement se détendre et s'enrober d'une douce chaleur réconfortante. La palme de vos pieds, vos doigts de pied, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, l'ensemble de vos jambes, vos hanches, vos fesses, votre zone pelvienne, votre bas-ventre, le bas de votre dos, votre poitrine, l'ensemble de votre dos. Vos épaules. Votre nuque. Vos bras. Vos mains. Et les doigts de vos mains. Votre corps est désormais parfaitement relâché, détendu. Et c'est le moment idéal pour mettre en place une séance de méditation, c'est-à-dire de ne rien faire que de vous concentrer sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, de faire le vide en laissant les pensées parasites aller et venir sans les juger, en les observant simplement passer, puis disparaître, à mesure que vous recentrez votre attention sur l'air que vous inspirez et que vous expirez. Pendant quelques instants, concentrez simplement votre attention sur votre souffle. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Jacques se jugea simplement ignoble. C'était odieux de rester là dans l'obscurité comme un espion sacrilège pendant que cette femme si parfaitement inconnue de lui se confessait. Mais alors, il aurait fallu partir tout de suite, aussitôt que le prêtre en surplis était venu avec elle. Ou du moins faire un peu de bruit pour qu'ils fussent avertis de la présence d'un étranger. Maintenant, c'était trop tard et l'horrible indiscrétion ne pouvait plus que s'aggraver. Désœuvré, cherchant comme les cloportes un endroit frais à la fin de ce jour caniculaire, il avait eu la fantaisie peu conforme à ses ordinaires fantaisies d'entrer dans la vieille église et s'était assis dans ce coin sombre, derrière ce confessionnal, pour y rêver en regardant s'éteindre la grande rosace. Au bout de quelques minutes, sans savoir comment ni pourquoi, il devenait le témoin fort involontaire d'une confession. Il est vrai que les paroles ne lui arrivaient pas distinctes, et qu'en somme, il n'entendait qu'un chuchotement. Mais le colloque, vers la fin, semblait s'animer. Quelques syllabes, çà et là, se détachaient, émergeant du fleuve opaque de ce bavardage pénitentiel, et le jeune homme, qui par miracle était le contraire d'un parfait goujat, craignit de surprendre des aveux qui ne lui étaient évidemment pas destinés. Soudain, cette prévision se réalisa, un remous violent parut se produire. Les ondes immobiles grondèrent en se divisant, comme pour laisser surgir un monstre, et l'auditeur, broyé d'épouvante, entendit ces mots proférés avec impatience. « Je vous dis, mon père, que j'ai mis du poison dans sa tisane. » Puis rien. La femme, dont le visage était invisible, se releva du prie-Dieu et silencieusement disparut dans le taillis des ténèbres. Pour ce qui est du prêtre, il ne bougeait pas plus qu'un mort et de lentes minutes s'écoulèrent avant qu'il ouvrit la porte et qu'il s'en alla à son tour du pas pesant d'un homme assommé. Il fallut le carillon persistant des clés du bedeau et l'injonction de sortir, longtemps bramée dans la nef, pour que Jacques se levât lui-même, tellement il était abasourdi de cette parole qui retentissait en lui comme une clameur. Il avait parfaitement reconnu la voix de sa mère. Impossible de s'y tromper. Il avait même reconnu sa démarche quand l'ombre de la femme s'était dressée à deux pas de lui. Mais alors quoi? Tout croulait, tout fichait le camp, tout n'était qu'une monstrueuse blague. Il vivait seul avec cette mère qui ne voyait presque personne et ne sortait que pour aller aux offices. Il s'était habitué à la vénérer de toute son âme comme un exemplaire unique de la droiture et de la bonté. Aussi loin qu'il pût voir dans le passé, rien de trouble, rien d'oblique, pas un repli, pas un seul détour. Une belle route blanche à perte de vue, sous un ciel pâle, car l'existence de la pauvre femme avait été fort mélancolique. Depuis la mort de son mari tué à Champigny et dont le jeune homme se souvenait à peine, elle n'avait cessé de porter le deuil, s'occupant exclusivement de l'éducation de son fils, qu'elle ne quittait pas un seul jour. Elle n'avait jamais voulu l'envoyer aux écoles, redoutant pour lui les contacts, s'était chargée complètement de son instruction, lui avait bâti son âme avec des morceaux de la sienne. Il tenait même de ce régime une sensibilité inquiète et des nerfs singulièrement vibrants qu'il exposait à de ridicules douleurs, peut-être aussi à de véritables dangers. Quand l'adolescence était arrivée, les fredaines prévues qu'elle ne pouvait pas empêcher l'avaient faite un peu plus triste sans altérer sa douceur. Ni reproche, ni scène muette. Elle avait accepté, comme tant d'autres, ce qui est inévitable. Enfin, tout le monde parlait d'elle avec respect et lui seul au monde, son fils très cher, se voyait aujourd'hui forcé de la mépriser. De la mépriser à deux genoux et les yeux en pleurs comme les anges mépriseraient Dieu s'il ne tenait pas ses promesses. Vraiment, c'était à devenir fou, c'était à hurler dans la rue. Sa mère, une empoisonneuse. C'était insensé. C'était un million de fois absurde. C'était absolument impossible. Et pourtant, c'était certain. Ne venait-elle pas de le déclarer elle-même? Il se serait arraché la tête. Mais empoisonneuse de qui? Il ne connaissait personne qui fût mort empoisonné dans son entourage. Ce n'était pas son père qui avait reçu un paquet de mitraille dans le ventre. Ce n'était pas lui non plus qu'elle aurait essayé de tuer. Il n'avait jamais été malade, n'avait jamais eu besoin de tisane et se savait adoré. La première fois qu'il s'était attardé le soir, et ce n'était certes pas pour de propres choses, elle avait été malade elle-même d'inquiétude. S'agissait-il d'un fait antérieur à sa naissance? Son père l'avait épousée pour sa beauté lorsqu'elle avait à peine 20 ans. Ce mariage avait-il été précédé de quelque aventure pouvant impliquer un crime? Ce passé limpide lui était connu, lui avait été raconté 100 fois, et les témoignages étaient trop certains. Pourquoi donc cet aveu terrible? Pourquoi surtout, pourquoi fallait-il qu'il en eût été le témoin? Sous d'horreur et de désespoir, il revint à la maison. Sa mère accourut aussitôt l'embrasser. « Comme tu rentres tard, mon cher enfant, et comme tu es pâle, serais-tu malade ?»« Non, répondit-il, je ne suis pas malade, mais cette grande chaleur me fatigue, et je crois que je ne pourrai pas manger. Et vous, maman, ne sentez-vous aucun malaise ? Vous êtes sortie sans doute pour chercher un peu de fraîcheur. Il me semble vous avoir aperçu de loin sur le quai. » « Je suis sortie, en effet, mais tu n'as pu me voir sur le quai. J'ai été me confesser, ce que tu ne fais plus, je crois, depuis longtemps. » Jacques s'étonna de n'être pas suffoqué, de ne pas tomber à la renverse, foudroyé comme cela se voit dans les bons romans qu'il avait lus. C'était donc vrai qu'elle avait été se confesser. Il ne s'était donc pas endormi dans l'église, et cette catastrophe abominable n'était pas un cauchemar, ainsi qu'il l'avait une minute follement conçu. Il ne tomba pas, mais il devint beaucoup plus pâle, et sa mère en fut effrayée. « Qu'as-tu donc, mon petit Jacques ? Tu souffres ? Tu caches quelque chose à ta mère ? Tu devrais avoir plus de confiance en elle qui n'aime que toi et qui n'a que toi. Comme tu me regardes, mon cher trésor, mais qu'est-ce que tu as donc ? Tu me fais peur. » Elle le prit amoureusement dans ses bras. « Écoute-moi bien, grand enfant. Je ne suis pas une curieuse, tu le sais, et je ne veux pas être ton juge. Ne me dis rien si tu ne veux rien me dire, mais laisse-toi soigner. Tu vas te mettre au lit tout de suite. Pendant ce temps, je te préparerai un bon petit repas très léger que je t'apporterai moi-même, n'est-ce pas ? Et si tu as de la fièvre cette nuit, je te ferai de la tisane. » Jacques, cette fois, roula par terre. Enfin, soupira-t-elle, un peu lasse. Jacques eut une rupture d'anévrisme et sa mère avait un amant qui ne voulait pas être beau-père. Ce drame s'est accompli il y a 3 ans dans le voisinage de Saint-Germain-des-Prés. La maison qui en fut le théâtre appartient à un entrepreneur de démolition.
Bonne nuit. Bonne nuit.